Io non rubo altro tempo perché dobbiamo stare, diciamo, al massimo nelle 2 ore, perché il professor Bensoussan, dopo un tour de force di 3 giorni, 4 giorni in giro per l'Italia, è giusto che torni a casa e ha un treno questa sera. Volevo solo ringraziare gli amici che hanno collaborato alla riuscita di questa serata, in particolar modo l'Associazione Figli della Shoah, che ricordo oggi ha tenuto un importantissimo seminario a Milano sulla didattica della Shoah con il professor Bensoussan e tantissimi altri illustri ospiti. Voglio ringraziare gli amici del CEDEC, il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, e gli amici del Keren Hayesod che insieme hanno collaborato per la riuscita della serata. Ringrazio ovviamente il Dipartimento di Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, rappresentato questa sera da Rav Roberto Della Rocca, che ne è il direttore. A Rav Della Rocca dobbiamo tante cose, e anche credo il fatto che Georges Bensoussan sia in Italia, credo che sia anche merito dell'Unione e del Dipartimento che l'ho invitato a Firenze. Ringrazio, e qui chiudo, gli ospiti, ma è importante perché l'amico David Bidus ha accettato il nostro invito di portarci una riflessione. Bidus non ha bisogno di presentazione, insomma è uno storico, un storico delle idee, credo ami definirsi, e mi sembra una definizione stasera molto importante, laddove il tema credo non debba essere trattato solo esclusivamente sotto il profilo storico, ma una riflessione sulle idee che vi stanno dietro e sull'identità ebraica che oscilla sempre tra Auschwitz e Gerusalemme, credo che sia estremamente importante. David porterà una riflessione dopo l'intervento del professor Bensoussan. Ringrazio Guido Vitale, giornalista e direttore del mensile Pagine Ebraiche, per aver accettato il nostro invito. Guido ci aiuterà nel dialogo con i nostri 2 ospiti e ci aiuterà anche gentilmente nella traduzione del professore. Lascio la parola al professor Bensoussan, che ricordo essere tra le tante cose, insomma, uno dei maggiori intellettuali europei, storico del sionismo e della Shoah, responsabile editoriale del Memoriale della Shoah di Parigi, ha scritto numerosi saggi, testi, insomma è un personaggio, lo ringraziamo del lavoro che fa, delle cose che dice e di essere qui questa sera. Grazie professore e buona serata a tutti.
Grazie, buonasera, grazie di essere intervenuti. E procedo speditamente perché abbiamo davanti un programma molto intenso e complesso. Ve lo illustro innanzitutto. Il professor Bensoussan terrà un intervento, credo relativamente denso e lungo, che io cercherò di tradurvi, quantomeno di tradurvi per sommi capi. E dopo questo intervento parlerà David Bidussa, e se resterà ancora del tempo ci sarà la possibilità di far interagire i nostri 2 ospiti un pochino, o di lasciare anche dello spazio a degli interventi del pubblico. Concluderà la serata un intervento del Rav Della Rocca. Io recentemente ho intervistato il professor Bensoussan ed è uscita su Pagine Ebraiche un'intervista sul numero di febbraio, e posso solo dirvi che per me è stata, diciamo che i giornalisti hanno molte scomodità da affrontare, ma anche il privilegio di poter incontrare delle persone straordinarie nell'ambito del loro piccolo grande percorso professionale. Per me è stata un'occasione molto importante, che mi ha molto impressionato per la durezza, la concretezza e anche per le sue affermazioni profondamente vere, turbanti e disturbanti in un certo senso, perché ha da dirci delle cose che non sempre fa piacere sentire, ma ci si rende conto abbastanza facilmente che sono profondamente vere e inquietanti, e con le quali in ogni caso è necessario fare i conti. Ho continuato a riflettere anche dopo aver pubblicato l'intervista sulle cose che mi ha detto, e io credo che molti dei temi che lui tocca nei suoi libri straordinari e nei suoi interventi siano poi i temi con cui effettivamente noi, vivendo la nostra vita ebraica da ebrei contemporanei, dobbiamo necessariamente confrontarci. Il professor Bensoussan ha avuto molte occasioni di incontro a Firenze e anche a Milano questa mattina in dei luoghi in cui c'erano delle categorie ristrette di cittadini, insegnanti, leader comunitari, eccetera. È straordinariamente positivo che la comunità ebraica di Milano abbia creato questa sera un'occasione di incontro con l'intera comunità per ascoltarlo. Do la parola al professor Bensussan. Scusate, è evidente che io non sono un traduttore professionale, cercherò di arrangiarmi. Chi sa il francese avrà naturalmente il migliore dei risultati, gli altri dovranno accontentarsi.
Buonasera. Mon italien s'arrête là. Bonsoir à tous. Dans le climat un peu lourd et particulier qu'a rappelé le président de la communauté, je vais parler ce soir, et traduit par Guido Vitale, de cette affirmation qui passe pour une vérité d'évidence, à savoir que l'État d'Israël est né de la Shoah. Ça pourrait passer pour une assertion anecdotique. En réalité, c'est une assertion politique qui a des conséquences catastrophiques et pour Israël et pour la diaspora et pour, en fait, tout le monde environnant.
Il professor Bensussan ha salutato la sala e ha detto che nel clima pesante che stiamo attraversando in queste ore, lui dedicherà l'intervento di questa sera all'affermazione che troppi danno per scontata che lo Stato di Israele nasce dalla Shoah, scaturisce dalla Shoah, e si tratta di un'affermazione solo apparentemente storico-aneddotica, ma in realtà profondamente politica, che può comportare delle conseguenze disastrose sia per Israele sia per la diaspora ebraica.
Quand je dis ça passe pour une vérité d'évidence, pourquoi? Parce qu'effectivement, tous les faits, apparemment, et c'est ça qu'on appelle une évidence, militent pour que le grand public pense réellement que cet État est né après la catastrophe génocidaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une proximité chronologique. 1945, c'est la fin de la guerre, c'est la fin du désastre juif en Europe, et 1948, c'est la fondation de l'État d'Israël, 3 années seulement. D'autre part, parce que le monde est convaincu aujourd'hui que l'Occident était pénétré par un sentiment de culpabilité en 1945 et que de ce sentiment de culpabilité allait naître la volonté de créer un État pour les Juifs. Et puis il y a une troisième raison, c'est que d'une certaine façon cette croyance rassure. Cette croyance rassure parce qu'on a le sentiment qu'après un tel désastre, qui induit un sentiment de culpabilité évident, la création de l'État d'Israël est comme une rédemption. Autrement dit, après une telle chute dans l'abîme, vous avez une montée au sommet qui est la recréation d'une nation juive après des centaines et des centaines d'années de diaspora. Ce sont en fait 3 idées reçues.
Bisogna innanzitutto demistificare 3 idee che troppi danno per scontate. La prima è che però tendono ad avvalorare questa tesi sbagliata che lo Stato di Israele sia nato dalla Shoah. La prima coincidenza che tende a rafforzare questa mistificazione è l'elemento cronologico. La fine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945 e la fondazione dello Stato di Israele nel 1948 sono 2 elementi cronologici estremamente vicini fra di loro. Il secondo elemento è il complesso di colpa che è stato ingenerato nell'opinione pubblica dal fatto della Shoah. E il terzo elemento è la necessità, il bisogno di rassicurazione e di sviluppare un sentimento di redenzione, di superamento dagli orrori della Shoah che hanno preso piede immediatamente dopo la guerra.
Je développe un peu quand je dis le sentiment d'une rédemption, c'est un sentiment d'une rédemption, un sentiment de rédemption qui est tout à fait inscrit dans la théologie chrétienne de la rédemption, c'est-à-dire comme s'il s'agissait, après un tel désastre, né dans l'Europe chrétienne, né de l'Europe chrétienne, né des enfants de l'Europe chrétienne, même si les nazis avaient rompu avec le christianisme, ils avaient été des enfants élevés dans le christianisme, protestants ou catholiques, ça ne changerait pas grand-chose à l'affaire, il y a dans cette volonté de penser que la création d'Israël est une rédemption comme une façon de christianiser le judéocide. Et cette façon de christianiser le judéocide, c'est quelque chose qui est très ancien et c'est en même temps quelque chose qui est très nouveau aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure.
Vi è un elemento teologico in questa teoria e deriva necessariamente dalla concezione di redenzione che esprime la cultura cristiana, poco importa se espressa dai cattolici o dai protestanti. Un concetto che porta a pensare, secondo i cristiani, che dopo un disastro debba seguire una redenzione. Attraverso questa concezione passa anche un tentativo di cristianizzazione di quello che è avvenuto.
Quand je dis que c'est une, ça passe pour une évidence ancienne, si on prend les mémoires du général de Gaulle, c'est exactement ce qu'il dit. L'État d'Israël est né des souffrances du peuple juif. Comme si le sionisme était né de l'antisémitisme, par exemple. Ça, c'est une idée dont beaucoup de gens sont convaincus, y compris le public juif. Et il n'y a pas plus faux que cette idée. Le sionisme n'est pas né de l'antisémitisme. Ça, c'est les apparences. C'est également une assertion qu'on trouve dans des textes des années 1950, par exemple chez Elie Wiesel. Dans la préface que François Mauriac donne à Elie Wiesel, il dit exactement la même chose. L'État d'Israël est né un peu comme une compensation des fautes qui ont été commises par le monde européen contre les Juifs. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça, évidemment, je ne vais pas tous les passer en revue.
Troviamo traccia di questa concezione nelle memorie del generale de Gaulle, per esempio, troviamo traccia nell'idea scontata e a sua volta sbagliata che il sionismo sia un movimento politico nato in reazione all'antisemitismo, ne troviamo traccia anche in opere di autori ebrei, come per esempio nelle prefazioni alle opere di Elie Wiesel degli anni 50, quindi le prime opere pubblicate, e secondo le quali lo Stato di Israele sarebbe stata una compensazione, uno sdebitamento a fronte di quello che avvenne durante la Shoah.
Le problème dans cette idée que l'État d'Israël est né de la Shoah, c'est que les Israéliens eux-mêmes en sont les premiers responsables aujourd'hui. Je vais détailler trois points très brefs. Les Israéliens eux-mêmes aujourd'hui font de la Shoah comme le cœur de leur identité. Quand un chef d'État étranger arrive en Israël, la première visite, c'est Yad Vashem. C'est le premier parcours officiel. Ce n'est pas un autre lieu de mémoire en Israël. Ce n'est pas une valorisation d'autre chose, c'est Yad Vashem, c'est-à-dire comme si au cœur de l'identité israélienne, donc au cœur de la fondation de ce pays, il y avait la catastrophe juive en Europe. Ça, c'est le premier point.
Il problema è che gli israeliani sono i primi responsabili di questa idea sbagliata. Al primo punto vorrei segnalare il fatto che qualunque visita di un capo di Stato estero che giunge in Israele comincia con una visita allo Yad Vashem. Non esiste altro luogo di memoria, non esiste altro percorso, altro itinerario che viene proposto durante una visita ufficiale nello Stato di Israele. Questo è il momento introduttivo del viaggio in Israele.
Et du coup, cette centralité en Israël même qui fait qu'on va immédiatement Yad Vashem pour tout le monde, s'entretient dans le grand public, à l'étranger aussi, l'idée que cet État est né effectivement de la souffrance et qu'il est né en particulier du sentiment de culpabilité des Occidentaux. Or là aussi, j'en dirai un mot dans un instant, c'est une illusion. Il n'y a pas de sentiment de culpabilité en 1945.
E questa idea che il capo di Stato di una nazione visita per prima cosa lo Yad Vashem, attraverso la quale passa anche il concetto che lo Stato di Israele è nato da un senso di colpa, da un sentimento di colpa delle nazioni, è profondamente pericolosa e del tutto infondata, perché nel 1945 non c'era alcun sentimento di colpa.
E infine, il y a un troisième élément qui n'est pas propre à Israël, qui est propre à toutes les sociétés occidentales. C'est que dans les sociétés occidentales, la mémoire est devenue une religion civile. Dans la mesure où il y a globalement une perte de la foi dans les religions révélées, c'est la mémoire qui est devenue la religion séculière des individus. C'est ce qui relie désormais les individus entre eux, c'est le culte de la mémoire. Et donc du coup, l'État d'Israël, qui est profondément également un État occidental, n'échappe pas à la règle. Le souvenir en Israël, la mémoire, c'est quelque chose de ritualisé, avec les monuments, les minutes de silence, les commémorations, les rituels, tout ce que l'on sait en fait, et en particulier la visite à Yad Vashem, tout ça participe d'une religion séculière de la mémoire qui est propre des sociétés occidentales.
Al terzo punto vorrei citare una esigenza che ha preso piede nelle società occidentali ed è quella di costituire una religione civile. Questa religione civile si chiama memoria. La memoria è divenuta la religione civile delle società occidentali e la società israeliana, che fa parte del mondo delle società occidentali, non sfugge a questo problema, con tutte le manifestazioni pubbliche e emotive che portano alla memoria, i minuti di silenzio, le commemorazioni, i monumenti. La memoria rischia di divenire la religione secolare dei tempi nostri.
Alors j'en arrive au cœur du sujet. Le lien supposé entre la catastrophe et la création d'Israël 3 ans après repose sur l'idée qu'en 1945, les Occidentaux se sentaient coupables, non pas de ce qu'ils avaient fait, mais de ce qu'ils avaient laissé faire, car on sait qu'ils ne sont pas intervenus. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus en 2 mots ? Premièrement, qu'effectivement la Shoah va radicaliser le judaïsme américain. On a un judaïsme américain avant la guerre qui est relativement peu sioniste. Le judaïsme américain va militer en 1945 pour la création d'un État juif. Ça, c'est vrai. Premier point. Le deuxième point, c'est vrai que dans les opinions occidentales, et en particulier en Europe de l'Ouest, l'opinion occidentale sera beaucoup plus favorable à l'idée d'un État juif qu'elle ne l'était avant. C'est tout ce qu'on peut dire dans ce sens.
Dobbiamo riconoscere che la Shoah radicalizzò immediatamente dopo la fine della guerra l'ebraismo americano e dobbiamo riconoscere che questo fenomeno orientò l'opinione pubblica europea verso un atteggiamento maggiormente favorevole alla creazione dello Stato di Israele. Ma dobbiamo ricordare che alla fine del 1945 il sentimento di colpevolezza, soprattutto in Europa occidentale, era soprattutto il sentimento di colpevolezza di aver lasciato commettere degli errori e non di averli commessi.
En revanche, du côté des classes politiques, c'est-à-dire des dirigeants occidentaux, et en particulier des Anglais et des Américains qui sont les plus puissants du côté des alliés, je ne parle pas des soviétiques, car les soviétiques, on le sait, étaient favorables à la création de l'État d'Israël pour des raisons particulières. Je parle des occidentaux. Les Anglais n'ont aucun sentiment de culpabilité en 1945. S'ils avaient eu un sentiment de culpabilité, ils auraient voté oui au plan de partage de l'ONU de novembre 1947. Or, ils se sont abstenus. S'ils avaient un sentiment de culpabilité, ils auraient laissé leur position militaire aux forces juives en 1948. Or, ils les ont laissées aux forces arabes. Deuxièmement, contrairement à ce que pense aujourd'hui l'opinion, la classe politique américaine est très partagée sur l'idée d'un État juif. Le département d'État américain, donc la politique étrangère des États-Unis, est très hostile à la création d'un État juif. Le général Marshall, qui dirige le département d'État, est personnellement antisémite. Et personnellement aussi, cet homme intelligent sait, et il le dit au président Truman, que si on laisse faire la création d'un État juif, on devra demain avoir de gros problèmes avec le monde arabe, et en particulier avec le monde arabe où depuis les années 20, en Arabie Saoudite, on a découvert d'énormes gisements de pétrole où les Américains sont très présents. Donc, les Anglais s'abstiennent le 29 novembre 1947. Les Américains votent oui, mais Marshall a tout fait pour convaincre Truman de voter non. Et quelque chose qui n'est pas connu, c'est qu'après le 29 novembre 1947, quand la violence commence en Palestine, enfin commence, elle est toujours là, quand elle redouble en Palestine à partir du 30 novembre et que réellement on a une guerre, cette fois directe, juifs-arabes, bien avant le 14 mai 1948, les États-Unis, inquiets de l'évolution de la situation en Palestine, demandent en mars 1948 un moratoire, c'est-à-dire un délai, concernant la décision du 29 novembre 1947. L'ONU refuse. Si les États de l'ONU de l'époque, ils étaient 51, avaient accepté la proposition américaine, il n'y aurait jamais eu d'État juif. Autrement dit, quand on entre dans le détail, on constate que les Américains ont freiné la création d'un État juif autant qu'ils l'ont pu.
Ecco, qui si tratta di delineare una situazione molto complessa. La Gran Bretagna non nutriva alcun sentimento di colpevolezza nel 1945 nei confronti del popolo ebraico. e la classe politica americana era generalmente favorevole alla creazione dello Stato ebraico, ma comunque divisa. Il Dipartimento di Stato, il generale Marshall, che era antisemita, cercò di impedire la creazione dello Stato ebraico, consigliando vivamente il presidente Truman di opporsi per svariati motivi. Per citare i principali, il fatto che la creazione dello Stato ebraico avrebbe scatenato un conflitto con i paesi arabi circostanti e il fatto che si stavano scoprendo in quegli anni degli ingenti giacimenti di petrolio che vedevano un forte coinvolgimento degli interessi economici statunitensi. Alla prova dei fatti, mentre la Gran Bretagna si astenne nel voto delle Nazioni Unite, che decise la divisione della terra di Palestina, gli Stati Uniti votarono a favore, ma solo dopo aver tentato, quando scoppiarono le violenze alla fine del 1947 fra ebrei e arabi, di ritardare al massimo questo processo. Le Nazioni Unite, la maggioranza delle Nazioni Unite, si oppose a questo tentativo di ritardare, ma se il tentativo degli Stati Uniti fosse andato a buon fine, molto probabilmente lo Stato di Israele non sarebbe mai nato.
Le grand danger en histoire, c'est de plaquer nos connaissances actuelles sur une situation ancienne. Nous avons le sentiment que ce que nous savons aujourd'hui, nous le savions alors. C'est faux. Ce que nous ressentons aujourd'hui, il le ressentait il y a 50 ans. C'est faux. Je veux dire par là quoi ? Je veux dire que la grande raison pour laquelle les États occidentaux vont dire oui à la création d'Israël, c'est la question des réfugiés. Ils ne veulent pas de réfugiés chez eux. En particulier, les Américains et les Anglais ne font aucun effort pour assouplir l'entrée des réfugiés juifs chez eux. Tout le monde connaît la politique américaine des quotas, ils ne la changent pas, et même mieux, ils accueillent davantage de criminels de guerre nazis que de juifs réfugiés, idem en Angleterre. Comme personne ne veut des réfugiés, effectivement, on pense que la Palestine deviendra une solution possible pour les réfugiés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous savons beaucoup sur la Shoah aujourd'hui. Énormément de choses. Les opinions occidentales ne savent pas grand-chose. Quand on dit crime nazi en 1945, les gens répondent Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen. Ils ne répondent pas Auschwitz. Et même s'ils répondaient Auschwitz, aucun ne répondra Treblinka, Belzec, Sobibor. Or, le cœur de la Shoah, c'est même pas Auschwitz, c'est Belzec, Sobibor, Treblinka. C'est l'action Reinhardt. Or ça, personne n'en sait rien. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, l'action Reinhardt est finie fin 1943. Il n'y a plus aucune trace en 1944. Tout a été détruit. Et deux, Belzec, Sobibor, Treblinka et les principaux crimes commis par l'Allemagne nazie sont tous à l'est de l'Europe, dans les zones libérées par les soviétiques. Et là, il n'y a aucune liberté de circulation et d'information. Donc l'opinion occidentale ne sait pas ce que nous savons, nous. Quand on lui dit crime nazi, elle répond déportation. Mais la déportation, ce n'est pas le massacre de toute une population.
Et una dei maggiori errori in cui possiamo incorrere nel formulare i nostri giudizi è di giudicare il passato con gli strumenti e con le cognizioni che oggi, di cui oggi noi siamo in possesso. Alla prova dei fatti è vero che l'orientamento favorevole della maggior parte degli Stati delle Nazioni Unite alla creazione dello Stato di Israele fu determinato unicamente dal timore di dover accogliere grandi masse di rifugiati, cioè per evitare di accogliere dei rifugiati. In secondo luogo, l'opinione pubblica occidentale di allora, se si fanno riferimento alle cognizioni di allora, aveva una percezione dei crimini della Shoah prevalentemente come dei crimini legati al concetto di deportazione, molto più che al concetto di sterminio. quindi evocava dei luoghi di deportazione, di lavori forzati, non arrivava quasi nemmeno a evocare il simbolo di Auschwitz, mentre invece noi oggi sappiamo che nemmeno Auschwitz, al contrario di quello che si dice molto comunemente, è il simbolo della Shoah. Il simbolo della Shoah è Treblinka e sono gli altri luoghi in cui gli ebrei venivano sterminati senza alcuna possibilità, immediatamente e senza alcuna possibilità di sopravvivenza. Questo dipende dal fatto che allora effettivamente nell'opinione pubblica occidentale si sapeva poco questo, e anche che questi luoghi sono stati fatti sparire, sono stati totalmente occultati, che queste operazioni di sterminio metodico si sono terminate nel 1943 e che si tratta di luoghi che allora si trovavano al di là della cortina di ferro, si trovavano nel mondo delle dittature comuniste dove la libertà di informazione e di circolazione delle idee era estremamente limitata.
Donc on est en présence aujourd'hui d'une idée reçue, la Shoah aurait été le berceau de l'État d'Israël. Or, quand on examine la situation de plus près, on constate que c'est l'inverse. La Shoah a marqué pour le sionisme, je ne parle pas de l'État d'Israël, mais elle a marqué pour le sionisme une quadruple défaite. Une quadruple défaite, quatre défaites. Quatre défaites, lesquelles ? Premièrement, une défaite morale. Le Yishuv, c'est-à-dire la communauté juive de Palestine avant l'État, qu'on appelle le Yishuv. Le Yishuv n'a pas pu sauver les Juifs d'Europe. Est-ce qu'il l'a voulu? Est-ce qu'il l'a pu? C'est une autre question qui pourrait nous occuper toute une soirée, mais on n'a pas le temps ici. On a très peu de temps, du fait aussi de la traduction. Il faut faire très vite. Le Yishuv n'a pas pu sauver les Juifs d'Europe. C'est comme ça, pour des raisons très complexes. D'où un sentiment de culpabilité profond et d'où un sentiment de faute. Deuxième échec, un échec politique. Le sionisme n'a pas pu convaincre les Juifs de la diaspora européenne de venir en Palestine tant qu'il en était encore temps dans les années 20, disons jusqu'avant 1936, à peu près. On pouvait encore entrer en Palestine, ce n'était pas toujours facile, mais les frontières étaient à moitié ouvertes. À partir de 1936, elles sont de plus en plus fermées. Les sionistes ont tenté de convaincre, ils n'ont pas réussi. Or, les sionistes ont tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Je rappelle que Ben Gurion, en 1934, quand il lit Mein Kampf en allemand, il dit « une Shoah menace le peuple juif en Europe ». Une Shoah. Il ne veut pas dire Treblinka, bien sûr. Il veut dire une catastrophe. Et qu'en 1933, le journal d'Avar, le journal du Parti travailliste, le Mapai, le journal d'Avar, parler de Shoah en Europe si on ne faisait rien contre Hitler. Donc il y a une lucidité. Eh bien, malgré tout, les sionistes ont échoué, ils n'ont pas été entendus. Troisième échec politique, ou plutôt démographique, il faut avoir présent à l'esprit ces chiffres. En 1939, 60% des Juifs du monde vivent en Europe. 60%. Les Juifs américains représentent une bonne partie du reste du judaïsme mondial et les Juifs du monde arabe et musulman une minorité. Sur 17 millions de Juifs dans le monde, un seul million vit dans le monde arabo-musulman depuis le Maroc jusqu'à l'Iran, en passant par la Turquie et le Yémen. C'est très peu. Donc le gros du judaïsme, c'est le judaïsme européen et le judaïsme d'Europe orientale entre la mer Baltique et la mer Noire. C'est ça les gros foyers du judaïsme. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que si c'est là qu'est né le sionisme, en Russie, à Odessa, avec Léon Pinsker, c'est là aussi que le sionisme a ses gros bataillons de réserve. C'est là aussi, c'est sur ces bataillons-là que les sionistes de Palestine comptent sur une alia massive pour venir les renforcer demain. Est-ce qu'ils ont tort ? Non, ils ont raison. Pourquoi ? Parce qu'il y a là des mouvements de jeunesse très nombreux qui comptent en Pologne des centaines de milliers de militants. Je pense que tout le monde connaît les mouvements Echalutz, Dror, Gordonia, Shomer HaTzair, etc. Ces mouvements comptent des centaines de milliers de militants. Je rappelle quand même ces chiffres, parce que sans la démographie, on ne fait pas d'histoire. Un juif sur cinq dans le monde est un juif polonais, en 1939. Un sur cinq, c'est énorme. Eh bien, la Shoah va empêcher ces jeunes gens de 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, de faire leur alliance en Palestine. Ce sont ceux-là qu'on va retrouver dans les grandes révoltes des ghettos. Donc, en un mot, le futur État d'Israël comptait sur une alia massive pour devenir fort. Ben Gurion disait « On deviendra un État viable quand on aura 2 millions de Juifs ». Avec la Shoah, il dit en 1942 « On pourrait peut-être vivre avec 1 million ». Il a abaissé la prétention. Donc, en clair, le choc démographique fait que l'État d'Israël qui va naître en 1948 est un État fragile, et que cet état fragile, il se traduit dans la fameuse formule d'Abba Eban, les frontières d'Auschwitz. Abba Eban, le ministre des Affaires étrangères d'Israël pendant des décennies, voulait dire par les frontières du 4 juin 67 qu'elles étaient le résultat de la faiblesse liée à la Shoah. Et effectivement, si le territoire israélien à la hauteur de Natania fait 15 kilomètres, c'est à cause de la Shoah. Donc non seulement la Shoah n'a pas créé Israël, mais la Shoah a fragilisé Israël parce qu'il lui manque des millions d'immigrants qui ne sont jamais venus. Je termine encore. Un mot.
Boni.
Et la quatrième défaite, c'est la défaite de la légitimité. Car Ben Gurion, qui est un grand esprit politique, dit au moment de la Shoah, dont il est au courant, le Yishuv sait parfaitement ce qui se passe en Europe et connaît même les noms des centres de mise à mort. Pas seulement Yishuv, mais tout le monde, dans le judaïsme américain par exemple, en 1943, on sait tout. Ce n'est pas le sujet ce soir, ce serait trop long. Bon, bref. Ben Gurion dit, avec d'autres sionistes en Palestine, demain, quand la guerre finira, et qu'il n'y aura plus de juifs en Europe, on nous dira, vous voulez un État juif, mais pourquoi il n'y a plus de juifs? Ce n'est pas faux. Il sait donc que sur le plan de la légitimité internationale, il va avoir beaucoup de mal à convaincre les alliés de la nécessité de créer un État juif, puisqu'effectivement, les Juifs sont morts dans leur grande majorité.
Se siete venuti per rilassarvi stasera... Allora, adesso andiamo ad analizzare perché dobbiamo smontare questo falso mito che la Shoah sia stata la culla dello Stato di Israele. Ci sono quattro, e invece è esattamente vero il contrario, ci sono quattro effetti che vengono descritti dal professor Bensoussan. Il primo è un effetto morale, un effetto deprimente in un certo senso, ed è che è un dato di fatto che l'Ishuv, l'insediamento ebraico in Palestina, non è stato in grado di salvare gli ebrei d'Europa. E quindi questo ha ingenerato un senso di colpa e di depressione nella popolazione dell'insediamento ebraico. La seconda considerazione che fa il professor Bensoussan è una considerazione di sconfitta politica del sionismo. Il sionismo fra gli anni 20 fino al 1936, quando era ancora non facilissimo ma possibile abbandonare l'Europa e viaggiare verso la salvezza penetrando le frontiere parzialmente penetrabili della Palestina, non riuscì a convincere le masse di ebrei europei di fare l'Aliyah. Eppure vi era una consapevolezza e una preveggenza nel sionismo molto forte di quello che sarebbe avvenuto in Europa. Qui il professor Bensoussan ha citato per esempio un articolo del quotidiano dei sindacati israeliani Davar, che nel 1933 parlava di Shoah in Europa. Cioè il termine Shoah esisteva, anche se naturalmente non si poteva prefigurare l'ampiezza della distruzione, il termine Shoah esisteva prima della Shoah. Il terzo elemento è un elemento demografico. La demografia ebraica di quegli anni non è quella che noi conosciamo oggi. Il 60% del popolo ebraico viveva in Europa, in particolare nell'Europa orientale, nel 1939. C'era naturalmente una forte componente negli Stati Uniti, e appena 1 milione di ebrei su 17 milioni di ebrei viveva nel bacino del mondo arabo e del Medio Oriente, quindi una piccolissima minoranza. Se è vero che il sionismo ha avuto la sua culla a Odessa ed è nato negli ambienti dell'Europa orientale, lì aveva anche i suoi battaglioni di riserva. I movimenti giovanili ebraici in queste aree contavano su centinaia di migliaia di aderenti e nel 1939 un ebreo su cinque al mondo era un ebreo polacco. Questi furono i giovani che furono massacrati durante la Shoah, questi furono i giovani che furono i protagonisti delle rivolte dei ghetti, questi sono i giovani che sono venuti a mancare allo Stato di Israele. Prima della Shoah Ben Gurion definiva una svolta per lo Stato di Israele il raggiungimento di 2 milioni di abitanti ebrei. Durante la Shoah abbassò questa sua mira realisticamente a 1 milione di ebrei in Palestina. È per questo che Abba Eban ha parlato, per definire le frontiere dello Stato di Israele, delle frontiere di Auschwitz, cioè delle frontiere di Israele definite dalla Shoah, strozzate, limitate dalla Shoah, ed è per questo che se lo Stato di Israele ha una profondità dal mare al confine di 15 chilometri, questo lo si deve alla Shoah. Il quarto elemento citato dal professor Bensoussan è un problema di legittimità. La Shoah ha ridotto, invece che accrescere, la legittimità del sionismo, così come i leader sionisti di allora si resero perfettamente conto, perché l'idea principale del sionismo era di offrire una casa a masse di milioni di ebrei europei diseredati che dopo la Shoah non esistevano più. Erano venuti a mancare.
Merci beaucoup. Je vais terminer cette première partie en disant que la thèse selon laquelle l'État est né de la Shoah est une thèse négationniste. Quand je dis négationniste, je ne veux pas utiliser un terme polémique, pas du tout. Négationniste au sens premier du terme, c'est-à-dire une thèse qui nie l'histoire, qui occulte l'histoire, qui la masque et qui la retravaille. En quoi ? Si nous disons que l'État d'Israël est né de la Shoah, nous masquons totalement l'histoire du sionisme depuis 1882. Or, l'histoire de l'État d'Israël commence avec les premières aliotes du Bilou, les pionniers russes, et les aliotes yéménites de 1881, qui sont beaucoup moins connues que les aliotes russes. Ça, là commence réellement l'épopée du sionisme. Et elle commence aussi avec Ben Yehuda, c'est-à-dire avec l'hébreu, qui va non pas devenir une langue vivante, l'hébreu a toujours été une langue vivante, mais qui va devenir une langue maternelle. C'est ça la révolution de Ben Yehuda. Donc il y a une double révolution politique. L'arrivée dans ce que les sionistes appellent, et les juifs en général appellent Eretz Israël, et la langue hébraïque qui va redevenir une langue maternelle, c'est la première fois depuis des centaines et des centaines d'années. Ça, c'est la première occultation. La deuxième occultation, c'est qu'on a le sentiment que cet État est né de la compassion universelle, les non-juifs ont eu pitié des juifs en 1945, on oublie que cet État est né d'une reconnaissance internationale double. En 1922, la Société des Nations donne mandat aux Britanniques sur la Palestine en accordant toute son importance à la déclaration Balfour, donc en disant expressément à Genève, les Anglais ont pour but de créer en Palestine, dans une partie de la Palestine, un foyer national pour le peuple juif. Ça date de 1922, ça ne date pas de la Shoah. Deuxième reconnaissance internationale, l'ONU, 1947. Là, on est dans le droit international, on n'est pas dans la pitié. Tu m'arrêtes là ?
Dunque, la tesi che lo Stato di Israele sia nato dalla Shoah è una tesi profondamente negazionista e io in questo non voglio attribuire un significato demoniaco, ma semplicemente il dato di fatto, che è una tesi che tende a negare la realtà dei fatti. Perché in realtà la storia del sionismo e la costruzione dello Stato di Israele è cominciata molto prima di quel periodo, di quella fase storica, è cominciata e ha visto la sua svolta con l'arrivo delle prime aliot dei russi, con Ben Yehuda e con la creazione di una lingua ebraica che non è tornata, come si tende comunemente a credere, una lingua viva, perché l'ebraico è sempre stata una lingua viva, ma è tornata ad essere una lingua materna per una parte del popolo ebraico. E in secondo luogo, perché la seconda mistificazione è perché in realtà lo Stato di Israele nasce da due legittimazioni giuridico-internazionali, la prima nel 1922, quando la Società delle Nazioni accolse il contenuto e il dettato della dichiarazione Balfour, che dava mandato al governo britannico di creare un focolare nazionale ebraico in Palestina, e la seconda nel 1947 da parte delle Nazioni Unite. Quindi non vi è in queste dichiarazioni, peraltro una anche preesistente, nessun elemento di pietà o di compassione, ma semplicemente una dichiarazione politica da parte di realtà giuridiche internazionali.
Il y a enfin deux autres points par lesquels cette thèse est négationniste. Cette thèse, Shoah, création de l'État d'Israël, ignore le judaïsme d'Orient. Or, le judaïsme d'Orient a participé à la fondation du futur État d'Israël dès 1881. La première alia moderne n'est pas russe, elle est yéménite. Qu'est-ce que j'appelle l'alia moderne ? Une alia qui ne vient pas pour vivre de prières dans les yeshivot et de ce qu'on appelle la chalouka, une alia qui vient pour vivre de son travail en terre d'Israël. Non pas pour y mourir ou pour y vivre de façon religieuse, mais réellement pour y vivre de façon tout à fait classique, normale, etc., pour y gagner sa vie. Eh bien, avant 1948, la moitié des Juifs du Yémen étaient déjà arrivés en Israël. Mais il n'y a pas que les Juifs du Yémen. Il y avait aussi une immigration, pas nombreuse c'est vrai, mais qui existait, des Juifs du Maroc, des Juifs de Libye, un peu des Juifs d'Égypte, un peu des Juifs d'Irak, bref, il y a un judaïsme d'Orient qui a participé à la création de l'État. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là qu'il n'y a aucun lien entre la Shoah et les Juifs du Yémen. Et donc, s'ils ont participé à la création de l'État, on ne voit pas pourquoi la Shoah serait à l'origine de leur décision. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais je vais arrêter tout de suite parce que le deuxième point est plus long.
Ora... Esprimiamo in due punti, di cui io vi tradurrò soltanto il primo, altri aspetti di questa mistificazione. Si tende a pensare che lo Stato di Israele, che il movimento delle Aliot e del sionismo muova dall'Europa orientale, ciò che è vero solo in parte, perché in realtà prima ancora del flusso di Aliot dalla Russia, la realtà è che la prima Aliyah sionista venne dallo Yemen, venne dagli ebrei yemeniti. E per Aliyah io non intendo il trasferimento in terra di Israele di persone che ci sono sempre state e che potevano essere mosse da motivazioni spirituali, esclusivamente spirituali o religiose, ma del progetto politico di trasferirsi sulla terra di Israele per vivere del proprio lavoro. E questo lo fecero gli ebrei yemeniti per primi. E prima del 1948 oltre la metà degli ebrei yemeniti si trovavano già in terra di Israele. A questi seguirono anche molti altri ebrei dal Marocco e in parte anche dalla Libia, dall'Egitto, e questo costituisce un elemento molto significativo, perché è evidente che il fenomeno della Shoah non aveva direttamente coinvolto questo tipo di popolazioni.
Il y a d'ailleurs, je fais une parenthèse très brève parce qu'on a très très peu de temps malheureusement ce soir, il y a au sud de Tel Aviv, dans le quartier de Kerem HaTemanim, une rue qui s'appelle la rue Chelouch. Et la rue Chelouch est tout simplement le nom de la famille Chelouch, des Juifs d'Algérie arrivés en 1835, dans ce qui n'était pas à Tel Aviv, ça n'existait pas, qui était à la Palestine. Et ce sont eux les bâtisseurs de Neve Tzedek, du futur Kerem HaTemanim et donc du futur Tel Aviv, la famille Chelouch. Bon, je ferme la parenthèse. Parce que je n'ai pas le temps ce soir. Mais là où je voulais dire, où je veux insister pour dire, la thèse selon laquelle la Shoah a créé Israël est une thèse négationniste, c'est qu'elle ignore ce qu'est le foyer national juif en 1947. Je veux dire en clair que si l'ONU avait voté le 29 novembre 1947 le plan de partage, mais s'il n'y avait pas eu de foyer national existant déjà, avec 600 000 personnes qui vivaient là depuis 10, 15, 20, 30 ou 50 ans, eh bien, la décision de l'ONU n'aurait embrayé que sur du vide. Elle n'aurait abouti à rien. Qu'est-ce que je veux dire par un foyer national qui était capable de vivre? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Anglais. En 1937, les Anglais décident le plan de Lord Peel pour mettre un terme au conflit entre Juifs et Arabes et décident de partager la Palestine en deux. Et Lord Peel déclare, si demain, on est en 1937, 10 ans avant le vote de l'ONU, si demain nous accordons l'indépendance aux Juifs, ils sont capables de vivre et de fonctionner comme un État en moins d'une semaine. Pourquoi dit-il cela ? Parce qu'effectivement, depuis les années 1905-1906, toutes les grandes institutions du futur État d'Israël existaient déjà avant 1940. Je passe en revue quelques-unes. L'Université hébraïque de Jérusalem, 1925. Le premier lycée hébraïque s'appelle Herzliya, pas la ville, hein, il s'appelle Herzliya, 1906. L'Académie de la langue hébraïque, 1908. La grande presse hébraïque d'Avar, 1925. Haaretz, 1919. La force de défense qui donnera Tsahal, la Haganah, 1920. La Kupat Rolim, syndicat, le caisse de sécurité sociale, 1920. Le grand syndicat israélien qui est toujours le même aujourd'hui avec le même nom, la Histadrut, 1920. Et enfin, dernier, Kol Israël, qui s'appelait à l'époque Kol Yerushalayim, 1934. Et enfin, dernier exemple, pour ceux qui soutiennent, et on en a beaucoup d'exemples en France parmi les professeurs auxquels on conforme sur l'enseignement de la Shoah, et on leur dit, quand vous dites et que vous pensez de bonne foi, parce que ce sont des gens honnêtes, que l'État d'Israël est né de la Shoah, posez-vous une question. Demandez-vous pourquoi Tel Aviv a été fondée en 1909. 1909, 30 ans avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, Tel Aviv regroupe 200 000 habitants. Où est le rapport ici direct avec la Shoah? Donc en un mot, il est clair que s'il n'y avait pas eu déjà cette réalité-là, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël le lendemain.
Il secondo elemento che sviluppa il professor Ben Soussan è la dimostrazione che nel momento in cui fu proclamata dalle Nazioni Unite l'indipendenza dello Stato di Israele, tutte le strutture di uno Stato erano già in opera da tempo e consentirono effettivamente la nascita di questo Stato, e se così non fosse stato, la proclamazione delle Nazioni Unite sarebbe semplicemente caduta nel vuoto, non avrebbe avuto alcun effetto. In realtà già nel 1937 le autorità britanniche avevano apertamente valutato che se fosse stata data alla popolazione ebraica l'autodeterminazione, nell'arco di una settimana lo Stato sarebbe perfettamente stato in grado di funzionare. 600.000 ebrei vivevano già in Palestina e tutte le principali istituzioni, qui c'è una lunga lista, erano già funzionanti da molti anni. Il professor Ben Soussan ha citato l'Università Ebraica di Gerusalemme, il primo liceo ebraico del 1906, l'Accademia della Lingua Ebraica nel 1908, le grandi testate della stampa quotidiana ebraica, come per esempio il quotidiano Haaretz, il quotidiano Davar nel 1925, la Cassa di Assistenza a Malattie Kupat Olim nel 1920, il sindacato sempre negli stessi anni, l'emittente radiofonica Kol Yerushalayim, che poi esiste tuttora e si sarebbe chiamata la Radio di Stato Kol Israel nel 1934, e per esempio ha citato anche l'esistenza della nascita di una grande metropoli moderna fondata nel 1909, cioè 30 anni prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale, Tel Aviv, che aveva già centinaia di migliaia di abitanti.
Alors maintenant se pose la question en deuxième partie, comment l'État d'Israël, d'abord le Yishuv en 1945 et l'État d'Israël en 1948, comment ont-ils accueilli les rescapés de la Shoah? Comment ont-ils géré le souvenir de la Shoah? Comment ont-ils institué la mémoire nationale de la Shoah? Et pourquoi Yad Vashem a été créé en 1952? Pourquoi si tard, alors que le projet d'Yad Vashem date de 1942? Double paradoxe. En un mot, pourquoi l'accueil des rescapés en Israël ou en Palestine avant Israël, peu importe, pourquoi l'accueil des rescapés a-t-il été un demi-échec? Pourquoi les rescapés ont-ils été si mal accueillis? Tous l'ont dit. Premièrement, on remarquera qu'ils ont été mal accueillis partout, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Bon. Seulement le problème, c'est que les rescapés, pensant arriver dans un État juif, pensaient être mieux accueillis. En fait, non, ça a été un échec, un demi-échec. Et ici, il faut comprendre pourquoi il y a trois types de raisons, qui sont des raisons évidentes, et trois types de raisons beaucoup plus subtiles, beaucoup plus sourdes, beaucoup moins faciles à dire, qui relèvent souvent de l'indicible, je dirais, même de la honte. De la honte. Trois types de raisons évidentes. On est en 1945, 47, 48, 50, 52, c'est-à-dire la grande période où arrivent les rescapés d'Europe. 45, 52 à peu près, pendant 7 ans. Le pays fait face à une immigration massive, pas seulement des Juifs d'Europe, mais des Juifs d'Irak, 1951, des Juifs du Maroc, des Juifs de Libye en 51, tous, enfin presque tous en tous les cas, des Juifs de Libye. Une partie va en Italie, l'autre grande partie va en Israël. Les Juifs d'Irak, c'est tous en Israël, 130 000 en un an. 130 000. Or, tous ces Juifs qu'il faut intégrer, de Roumanie, de Hongrie, d'Allemagne, des camps de personnes déplacées, d'Irak, de Libye, du Maroc et d'ailleurs, du Yémen, j'oubliais, le Yémen, les 60 000 qui restent au Yémen, il faut les accueillir, leur apprendre l'hébreu, les loger, les soigner, beaucoup viennent dans un état de santé déplorable, tuberculose, trachome, affection oculaire. Il faut leur trouver du travail. Donc en clair, ce que je veux dire en un mot pour résumer, maximum de synthétique parce qu'on n'a pas le temps, c'est de dire simplement que l'État d'Israël a d'autres soucis en tête que de s'occuper de l'état d'âme des rescapés. D'autant qu'à l'époque, on ne connaît pas encore l'importance du traumatisme psychique de la déportation et des rescapés. C'est aujourd'hui qu'on sait beaucoup là-dessus. Par exemple, je fais une parenthèse rapide. Il faut attendre 1961, ce n'est pas par hasard, c'est le procès Eichmann, pour que la psychiatrie israélienne demande à tous ceux qui entrent dans les hôpitaux psychiatriques est-ce que le patient a-t-il séjourné dans un camp de concentration. 1961, c'est quand même tardif. Donc, première raison, l'immigration massive. J'arrête là ?
Oui, passionné. Dunque, qui è necessario domandarsi come furono accolti i sopravvissuti nello Stato di Israele. In generale la risposta del professor Bensoussan è che i sopravvissuti della Shoah furono accolti male, così come furono accolti male dappertutto. Furono accolti male dappertutto, ma furono accolti male anche nello Stato di Israele, per un misto di fattori che hanno a che fare anche con la vergogna, ma hanno a che fare anche con delle ragioni concrete, con delle ragioni pratiche. Per esempio il professor Bensoussan ha citato anche il fatto che i flussi migratori fra il 1945 e il 1952 erano massicci e non riguardavano soltanto gli ebrei dall'Europa, ma contemporaneamente anche ebrei provenienti da realtà come l'Iraq, come la Libia, estremamente disagiate, estremamente problematiche, e che quindi la realtà del nuovo Stato doveva affrontare delle problematiche di integrazione molto complesse e non era particolarmente facile e non era particolarmente propensa ad occuparsi delle ferite dell'animo, delle ferite psicologiche di cui erano portatori i sopravvissuti della Shoah. Ma è anche vero, dice il professor Bensoussan, che all'epoca la coscienza del traumatismo psichico era molto meno nitida di quella che noi possiamo avere oggi. Soltanto nel 1961, per esempio, negli ospedali psichiatrici israeliani si è cominciato a classificare i pazienti domandando loro se avevano mai soggiornato in un campo di concentramento, mentre prima questa domanda, che a noi pare oggi piuttosto banale, non veniva nemmeno posta.
Deux autres raisons brèves, la construction du pays et l'état de guerre qui ne finit pas en 1949. Je rappelle qu'en 49, c'est l'armistice.
Voilà, deux mots là-dessus. Non dobbiamo neanche dimenticare che il paese si trovava in stato di guerra, che appena nel 1949 ci fu l'armistizio.
Maintenant, il y a les trois autres raisons qui sont beaucoup plus sournoises, beaucoup plus fines, beaucoup plus subtiles. La première, c'est que les gens du Yishuv, les gens d'Israël, accueillent les rescapés avec une certaine agressivité. Ils ne veulent pas entendre ce qu'ils ont subi. Et il ne veut pas entendre s'ils ont subi par culpabilité, parce qu'ils n'ont pas pu les sauver, parce qu'ils n'ont rien pu faire pour eux. Je ne dis pas parce qu'ils n'ont pas voulu, parce qu'ils n'ont pas pu les sauver. Ils ressentent profondément face à ce qu'ils ont vécu et qu'ils connaissent en partie seulement, une profonde culpabilité. Et quand ils commencent, les rescapés, à dire dans le ghetto, j'ai connu telle ou telle horreur, immédiatement, tous racontent la même chose, on va les faire taire en leur disant, tu sais, nous ici en Eretz Israël, on a aussi beaucoup souffert. Et c'était la meilleure façon de les faire taire. Mais ce silence qu'on leur impose, il est d'abord lié à la culpabilité, de n'avoir rien pu faire pour eux. Mais pas seulement.
Ora andiamo ad analizzare tre motivazioni sottili del motivo per cui i sopravvissuti furono accolti male e furono poco compresi. Il primo motivo è una forma di aggressività che si sviluppò sulla base di un sentimento di colpa. Un sentimento di colpa che era originato dalla consapevolezza di non aver potuto aiutare queste genti. E questo portò a un silenzio imposto. Molti sopravvissuti riferiscono, per esempio, del momento in cui, tentando di raccontare le loro sofferenze o la vita nei ghetti, si sono sentiti rispondere, sai, anche noi in Israele abbiamo affrontato delle grandi sofferenze. E questa è la miglior maniera per far tacere una persona che ha sofferto.
La deuxième raison, c'est que l'étau sioniste, la morale sioniste, la moralité sioniste, la volonté sioniste de bâtir un homme nouveau est détruite par l'image des rescapés. Qu'est-ce qu'a voulu le sionisme comme idéologie de l'homme nouveau juif? C'est un homme nouveau fort, qui n'accepte pas les coups et qui les rend et qui est prêt à se défendre, à se battre et à aussi user de la violence. Or, quelle image donnent les rescapés? Ils donnent l'image d'un peuple de moutons. Attention, l'image d'un peuple de moutons, ce n'est pas une image d'antisémite, c'est une image de juif. C'est Aryeh Vilner, le combattant du ghetto de Vilna, qui utilise la première fois cette image le 31 décembre 1941. Donc, les gens du Yishuv, les sionistes du Yishuv, ont le sentiment que tout ce pour quoi ils se sont battus, un homme juif nouveau fort, est bafoué et détruit par l'image des rescapés. Ça, ils ont du mal à le supporter.
Il secondo aspetto è che la morale sionista viene infastidita, viene erosa, viene distrutta dall'immagine del sopravvissuto. La morale sionista propaganda un'immagine di un ebraismo forte e anche disposto a usare la forza per difendersi, non quella di un popolo di pecore, e dobbiamo stare molto attenti perché l'immagine di un popolo di pecore non è un'immagine che scaturisce dall'immaginario dell'antisemitismo, ma dall'immaginario ebraico, dall'immaginario sionista, e queste terminologie sono state usate per la prima volta dai combattenti del ghetto.
Et puis enfin, il y a une troisième et dernière raison, c'est que le sionisme s'est bâti par rejet de la diaspora. Et il y a des textes chez les sionistes, des années 1900, 1910, 1920, chez des textes de Lilian Blum, de Brenner, de Berdichevski, des grands fondateurs du sionisme russe, qui sont des textes qui frôlent l'antisémitisme, qui sont des textes d'une extraordinaire violence contre la diaspora. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire par là que c'est une chose de maudire le monde d'où l'on vient. Et ils l'ont maudit, les sionistes ont maudit la diaspora, et ils ont divorcé avec elle. Mais c'est autre chose de voir que le monde d'où l'on vient, et qu'on a maudit, mais qui est aussi le monde de ses pères, de ses frères, de ses sœurs, de ses amis, de sa langue maternelle, le ladino dans les Balkans, et surtout le yiddish en Europe orientale, quand ce monde-là est détruit sous ses yeux et qu'on ne peut rien faire pour le sauver, eh bien, on ne peut que ressentir une profonde culpabilité un jour de l'avoir maudit. Et ça, ça crée un malaise terrible face aux survivants.
Il terzo aspetto è la cultura del rigetto della diaspora che fu elaborata dal mondo del sionismo. E ci sono dei classici del sionismo che rasentano quasi l'antisemitismo nell'attitudine di maledire il mondo da cui si proveniva, il mondo di provenienza. E per questo motivo, e qui questo è un aspetto estremamente complesso, estremamente sottile nel discorso del professor Ben Sussan, è per questo motivo che il mondo del sionismo sviluppò un complesso di colpa che risiede nel concetto di vedere ucciso, di vedere distrutto il proprio mondo di provenienza, il mondo della propria infanzia, che per certi aspetti è stato anche rappresentato dalle lingue etniche degli ebrei, dal ladino e soprattutto dallo yiddish, di vedere ucciso questo mondo quando si aveva speso la propria energia per rigettarlo e per maledirlo precedentemente. Questo sviluppò un profondo senso di colpa.
Alors à partir de là se pose la question, à partir de 1948, comment le jeune État d'Israël va gérer la mémoire du génocide, qu'on n'appelle pas encore la Shoah en Occident, mais qu'on commence déjà à appeler la Shoah en Israël. On pourrait penser, d'après ce que je dis, que l'État d'Israël va avoir honte de ce qui s'est passé et va faire le silence là-dessus. Bien, c'est le contraire. L'État d'Israël va être très bavard sur le génocide, va beaucoup parler du génocide. Mais d'abord, il faut avoir cette précision en tête. En 1949, dans un pays qui va doubler sa population en trois ans, 49-52, la population d'Israël passe de 600 000 à 1 200 000 habitants. Et bien en 1949, en 1950, un tiers des Israéliens sont des rescapés de la Shoah. Un tiers. En 1960, au moment du procès Eichmann, un quart des Israéliens sont des rescapés de la Shoah. Donc, il faut garder cela présent à l'esprit, la présence physique de la Shoah dans les rues d'Israël, dans les villes d'Israël. Le nombre de femmes jeunes, ils n'ont pas 80 ans, ils ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui ont un numéro ici tatoué comme ancien d'Auschwitz sur le bras gauche. Ça, c'est fréquent dans les rues d'Israël dans les années 60. Bon, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qui est frappant, c'est que le premier projet d'Yad Vashem date de 1942. C'est étonnant, parce qu'en 1942, au début de l'année 42, au printemps, la majorité des victimes de la Shoah sont encore en vie. Comment un foyer national juif peut-il envisager un musée mémorial de la catastrophe alors que les victimes ne sont pas encore mortes, ou en tous les cas, pas dans la dimension que l'on connaît ? Aujourd'hui, on sait que les antisionistes de profession disent « Regardez le cynisme des Israéliens. Ils sont capables de créer un mémorial alors que leurs victimes ne sont pas encore mortes. » C'est plus complexe que ça, évidemment, c'est moins débile que ça. La raison, elle est très simple. À condition de vouloir analyser, voici la raison, sur le fond. Le Yishuv sait qu'il ne peut rien faire pour les Juifs d'Europe. Et comme il ne peut rien faire pour les Juifs d'Europe, alors il va vivre au passé ce qui est un événement présent. Comme il ne peut pas agir sur le présent, il en fait déjà un événement passé. Donc il imagine déjà Yad Vashem, c'est déjà le nom qui est trouvé, il imagine déjà ce que sera Yad Vashem parce qu'il ne peut pas agir pour sauver les Juifs d'Europe. Parce que la projection simple que tout le monde peut faire, surtout les enfants peuvent faire cette projection, c'est que la Haganah, en 1940-42, c'est 30 000 hommes. La Haganah ne peut rien faire pour aider les Juifs d'Europe. La Wehrmacht, c'est 18 millions d'hommes. C'est pas la peine de faire un commentaire, tout le monde a compris. Bon. Donc en un mot, Yad Vashem, sitôt, c'est parce qu'on ne peut pas vivre au présent quelque chose qui est insupportable, alors on le relègue dans le passé.
Qui noi affrontiamo due aspetti di come nello Stato di Israele appena nato fu gestito il concetto di memoria. Dobbiamo immaginare, sulla base di quello che abbiamo appena analizzato, potremmo immaginare che lo Stato, gli ebrei nella Palestina, nel nuovo Stato di Israele, avrebbero potuto relegare il concetto di memoria nel silenzio e nella vergogna. Mentre invece non si tace affatto, si parla molto di questo argomento, si parla molto e si vede molto, si vive molto la presenza di questo argomento. La popolazione israeliana raddoppia fra il 1949 e il 1952, passando da 600.000 a 1.200.000 abitanti. Un terzo degli israeliani allora erano dei sopravvissuti della Shoah e al momento del processo Eichmann nel 1961 un quarto della popolazione israeliana erano dei sopravvissuti della Shoah. Dobbiamo pensare che questo fa sì che la presenza dei sopravvissuti era vera, era tangibile, era visibile e che era assolutamente comune vedere per strada, non erano dei vecchi come noi immaginiamo oggi i sopravvissuti della Shoah, dei giovani, delle giovani donne con il numero tatuato sul braccio. Era assolutamente comune nell'ambito della popolazione israeliana. Contemporaneamente ci troviamo di fronte al paradosso che la fondazione dello Yad Vashem risale al 1942. Si tratta di un elemento apparentemente paradossale. Come è possibile che lo Yad Vashem, che è l'istituzione che serve per studiare lo sterminio, sia nata prima che la maggior parte di questo processo fosse ancora avvenuto? Nel 1942 la maggior parte delle vittime della Shoah era ancora in vita. I negazionisti hanno utilizzato questo argomento per sottolineare il cinismo del popolo ebraico. Evidentemente la spiegazione è un po' più complessa di così. La realtà risale, va ricondotta al fatto che la presenza ebraica in Palestina non poteva fare nulla per salvare gli ebrei d'Europa e che sulla base di questo fenomeno sviluppò un profondo complesso di sofferenza e di colpa, e di fronte a un complesso del genere, a una sofferenza insostenibile, si sviluppa la tendenza di trasferire il presente verso il passato, cioè di darlo già per avvenuto anche quando sta per avvenire o sta avvenendo in quel momento. Quindi c'è un transfer di tutto quello che sta avvenendo verso il passato, lo si dà per scontato.
E ce qui est frappant, c'est que très tôt, le Parlement israélien, la Knesset, en 1951, vote la première loi sur la Shoah. Ça s'appelle Yom HaShoah Ve'agvura. Ce qui est très intéressant, c'est justement le sens. Yom HaShoah Ve'agvura, c'est le jour de la Shoah et de l'héroïsme. Dans un premier temps, le Parlement israélien avait pensé Yom HaShoah Ve'amered, le jour de la Shoah et de la révolte. Puis on s'est dit, la révolte, c'est restrictif. On va dire l'héroïsme. Mais ce qui est frappant dans ce terme, c'est que si on est obligé d'accoler au mot Shoah le mot héroïsme, ça veut dire qu'on pense, sans oser le dire, que la Shoah est honteuse. Et ça, c'est une dimension qu'on a complètement oubliée aujourd'hui. Aujourd'hui, pour nous, un rescapé de la Shoah est un héros. C'est une victime. En 1945, un rescapé de la Shoah n'est pas vu comme un héros. Il est vu comme quelqu'un qui a subi l'ignominie totale et il éprouve lui-même une honte profonde qu'on a complètement oubliée aujourd'hui et c'est la honte qui explique en partie le silence qui a été fait par un grand nombre d'entre eux sur ce qui s'est passé. Je dis en partie. Donc, premier point intéressant, Yom HaShoah Ve'agvura, pourquoi pas seulement Yom HaShoah ? Tout se passe comme si la Knesset distinguait entre la mort honteuse de la majorité, Treblinka, Belzec, Sobibor, Auschwitz, et la mort héroïque des autres, le ghetto, Varsovie, et les autres ghettos et les autres révoltes. Comme s'il y avait des juifs honteux et des juifs héroïques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que on est en 1949, 50, 60, etc., dans des années où le parti travailliste, la gauche, est au pouvoir en Israël. Or, la mémoire de la Shoah qu'elle va imposer est une mémoire restrictive. C'est sa mémoire. C'est la mémoire des partis de gauche, des mouvements sionistes de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toutes les forces qui ont participé à la résistance juive en Europe, non sionistes ou non sionistes de gauche, sont mises de côté. Exemple, le Bund. Le Bund a participé à la résistance partout en Europe. Le Bund s'est battu partout. Pas un mot sur le Bund. Les sionistes de droite de Jabotinsky se sont battus partout dans le ghetto de Varsovie et même avant les sionistes de gauche, bien avant. Silence radio, pas un mot. Même les mouvements orthodoxes religieux ont participé à la résistance, pas un mot. Donc une mémoire clivée, honte, héroïsme, une mémoire restrictive. Et troisième point, et je m'arrêterai là-dessus.
Non, vas-y.
Une mémoire qui est caractérisée dans les années 50 par le fait qu'on parle beaucoup de la Shoah en Israël, on en parle à différentes occasions, mais en fait c'est une parole publique, confisquée par les élites. Au moment de Yom HaShoah, on entend toujours les mêmes à la radio, on entend toujours les mêmes dans les meetings, on entend toujours les mêmes discours, mais en revanche, les rescapés, eux, on ne les entend jamais. On va entendre toujours Yitzhak Zuckerman, rescapé du ghetto de Varsovie, Tzivia Lubetkin, rescapé du ghetto de Varsovie, les fondateurs de Lochamei Guetaot dans le nord d'Israël, très bien, mais tous les autres, les centaines de milliers de victimes anonymes, cela, silence total. Donc, l'État d'Israël n'a pas fait silence sur la Shoah. Il y a eu une parole publique et un silence privé, c'est-à-dire que les rescapés, pendant au moins 20 ans, ont été dépossédés de leur histoire. Je vais m'arrêter là, parce que je vais laisser le temps de traduire.
Il professor Bensoussana adesso ha analizzato le distorsioni della memoria della Shoah che si sono prodotte in quegli anni. Nel 1951 la Knesset approva la legge che vara lo Yom HaShoah, definendolo il giorno della Shoah. C'è un dibattito parlamentare, si parla prima del giorno della Shoah e della rivolta, in definitiva poi si trova la definizione di giorno della Shoah e dell'eroismo. La classe politica di allora sentiva il bisogno di accostare questi due termini poiché percepiva il fatto di essere dei sopravvissuti come una vergogna e quindi c'era la necessità di accostare, di bilanciare questa idea con l'idea di presenza di eroi. Allora, oggi noi non possiamo concepire facilmente questa idea che essere un sopravvissuto della Shoah costituisca una vergogna, anzi viviamo i sopravvissuti, vediamo i sopravvissuti come degli eroi. Allora era così e ci sentiva quindi questo bisogno, quindi una distorsione di natura, se vogliamo, ideologica. Bisogna inoltre ricordare, secondo punto, che la società israeliana di allora era governata e profondamente ispirata agli ideali dei laburisti. E lì si produsse una memoria restrittiva, se vogliamo, poiché una memoria selettiva, poiché tutte le componenti del popolo ebraico, il professor Bensoussana ha citato il movimento del Bund, oppure per esempio la destra ebraica di Jabotinsky o anche l'opposizione al nazismo degli ebrei ortodossi, venivano messi in secondo piano, relegate al dimenticatoio, perché non trovavano uno spazio nella classificazione della cultura dominante laburista israeliana. Infine, il professor Bensoussan cita una distorsione mediatica della memoria, affermando che in realtà si è parlato molto in quegli anni di memoria della Shoah, ma in realtà a parlarne venivano prevalentemente invitati e sollecitati dei personaggi che erano testimoni della componente eroica e non della componente di vittime della Shoah. E quindi abbiamo assistito a una forte contrapposizione fra la parola pubblica e il silenzio privato.
E allora, sur ce silence justement des rescapés, pourquoi? La première raison, c'est la raison de la honte dont j'ai parlé tout à l'heure, j'insiste pas, j'en ai dit déjà beaucoup. Et c'est une raison qui est oubliée aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on fait une erreur historique en télescopant notre vision aujourd'hui du rescapé sur ce qu'était le rescapé en 1950. La deuxième raison, c'est que les rescapés savent qu'ils ne sont pas écoutés. Vous avez ici en Italie l'exemple de Primo Levi qui l'a dit plusieurs fois. J'insiste pas. C'est la même chose en Israël. La troisième raison, elle est plus simple encore. Elle est valable en Italie, en France, partout. Les rescapés sont des gens jeunes dans la majorité des cas. Adolescents, jeunes hommes, jeunes femmes. Ils ont besoin du silence pour se reconstruire. Personne ne peut fonder une famille à l'âge de 20 ans, 25 ans, 30 ans, en racontant à ses enfants ce dont ils ont été l'objet. Autrement dit, leurs enfants vont vivre dans un silence étrange qui est un silence peuplé. C'est-à-dire qu'on ne parlera pas de ce qui s'est passé là-bas, mais en même temps, les enfants sauront qu'il s'est passé des choses horribles et ils apprendront par l'école ou par les camarades. Et même si on ne leur dit rien à la maison, Ils sauront de toute façon que la situation est anormale parce qu'à l'école, entourés de petits camarades juifs d'Irak, juifs du Yémen ou juifs du Maroc, quand arrive Rosh Hashanah ou quand arrive le Seder de Pessah, dans la famille du petit voisin juif d'Irak ou du Maroc ou du Yémen, ils sont 40 avec les cousins, les beaux-frères, les belles-sœurs et les oncles. Et chez eux, ils sont 4. Papa, maman, ma sœur et moi. Et là, ils ne peuvent pas ne pas se poser de questions. Donc il y a toutes ces raisons qui sont liées au silence, la honte, le fait qu'on ne veut pas les entendre, et bien évidemment le fait qu'il est nécessaire de faire silence à un moment donné si on veut se reconstruire. Mais ce sont des raisons banales qu'on retrouve ailleurs en Europe ou aux États-Unis.
Dobbiamo aggiungere degli elementi che portarono a questa reticenza. Abbiamo già spiegato molto bene l'inibizione della vergogna. Il professor Bensoussan aggiunge anche la difficoltà dei sopravvissuti di essere ascoltati, che è stata molto ben espressa anche da Primo Levi e che è stata la difficoltà dei sopravvissuti in tutto il mondo, naturalmente, non solo in Israele. Ma aggiunge anche la necessità dei sopravvissuti di proteggersi e di circondarsi di una certa reticenza, di un certo silenzio. Molti di loro erano delle persone giovani che dovevano ricominciare una nuova vita. Non è possibile ricominciare una nuova vita, costruirsi una famiglia, ripartire di nuovo restando immersi negli orrori del passato. È per questo che molte famiglie dei sopravvissuti sono nate circondando i propri figli di un silenzio molto particolare perché popolato di fantasmi, un silenzio artificioso che spesso è stato spezzato nei contatti con le altre componenti della società israeliana. Per esempio, era molto frequente il caso di un figlio a scuola, un figlio di una famiglia ashkenazita, che venendo il momento dei moadim, delle feste, si rendeva conto che i propri compagni di classe, che venivano da famiglie provenienti per esempio dall'Iraq e dal Marocco, stavano per partecipare a delle riunioni familiari con 40 partecipanti, mentre invece lui veniva, tornava a casa e si trovava in una famiglia molto ridotta rispetto al modello di famiglia che c'era allora in Israele: papà, mamma, mia sorella e me stesso, per esempio, una famiglia molto piccola. Quindi in realtà poi questa realtà dal silenzio continuava comunque a emergere, a gettare un'ombra.
Allora on pourrait penser que l'État d'Israël dans les années 50, avant le procès Eichmann, n'a pas été bavard sur la Shoah, pas du tout. On a beaucoup parlé de la Shoah dans les années 50 en Israël à cause des événements politiques. Et j'en donnerai quelques exemples. Dès 1949, Martin Buber, qui venait d'Allemagne en 1938, a reçu le prix Goethe de la Nouvelle République fédérale allemande. Et très vite, il y a eu une polémique en Israël, à savoir, est-ce que Buber peut recevoir le prix de la Nouvelle Allemagne ? Est-ce qu'il peut aller en Allemagne pour s'exprimer ? Il y a eu toute une polémique et la majorité des intellectuels israéliens, y compris ses amis comme Gershom Scholem, étaient contre. Première polémique. Deuxième polémique, l'allemand. Est-ce qu'on peut enseigner l'allemand ? Est-ce qu'on peut importer des livres allemands ? Ça a provoqué toute une interrogation dans le monde intellectuel israélien. Troisième polémique, les réparations de 1952, quand l'Allemagne propose de verser des réparations aux survivants. Un milliard de dollars, 750 millions aux rescapés et 250 millions à l'État d'Israël. La grande question qui a divisé la société israélienne, c'est est-ce qu'on peut accepter l'argent des Allemands ? Et c'est une question qui a été déchirante, qui s'est traduite par des manifestations, des bagarres de rue, où Menachem Begin, chef de l'opposition de droite, du Herout à l'époque, l'ancêtre du Likoud, a mené le combat pour dire non, on n'acceptera pas l'argent des assassins. Et Ben Gurion, qui dirige le gouvernement, dira on est obligé d'accepter cet argent parce que nous avons besoin de cet argent pour nous renforcer. Donc c'est un vrai débat moral qui s'engage et qui réactive le souvenir de la Shoah avec des débats violents à la Knesset et très émouvants des deux côtés d'ailleurs. Quatrième exemple, les négociations avec l'Allemagne. Faut-il ou non reconnaître l'Allemagne et l'Allemagne peut-elle reconnaître l'État d'Israël ? Oui, en 1965, mais ça a été très long comme débat, très difficile. Cinquième exemple, les conseils juifs. En 1954, commence un procès extraordinaire, le procès d'un ancien responsable du Conseil juif de Hongrie, de Budapest, Kastner. En fait, c'est une histoire très compliquée, je n'ai vraiment pas le temps ce soir d'expliquer l'affaire Kastner, sauf pour dire ceci, ça s'est terminé par la mort de Kastner assassiné par des hommes de droite. Pourquoi ? Kastner était membre du Mapai, de gauche. Kastner était membre du Judenrat, de Budapest. Il est accusé par des juifs hongrois d'avoir sauvé les siens et d'avoir laissé les autres abandonnés. Peu importe que ce soit vrai ou pas, ce qui est important, c'est de voir qu'au sein même de la société israélienne, le conflit est terrible entre ceux qui se sont plus ou moins accommodés des Allemands, qui ont plus ou moins collaboré, qui ont été dans les Judenrat, parfois même plus loin encore, et on a vu dans les rues israéliennes à Haïfa, à Tel Aviv ou ailleurs, parfois dans les années 50, 52, 55, des scènes de rues extraordinaires où des anciens rescapés d'un ghetto ou d'un camp ont reconnu dans la foule un ancien responsable juif qui les avait persécutés. Et il y a eu de véritables scènes de violence, de passage à tabac, pour dire combien c'est présent dans la société israélienne. Et enfin, dernier exemple, c'est que l'environnement international d'Israël réactive en permanence le souvenir de la Shoah. En 1956, guerre du Sinaï, toute la presse israélienne est convaincue que Nasser, c'est la réincarnation d'Hitler. Peu importe que ce soit vrai ou pas, ce n'est pas notre sujet. Ce qui est important, c'est la représentation mentale. Il voit dans la menace arabe aux frontières, la menace nazie recommencée.
Con questo noi non dobbiamo pensare che la Shoah non fosse presente.